France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
50 ans après sa découverte fortuite et des décennies de fouilles, le site de la Roche à Pierrot à Saint-Césaire en Charente-Maritime refait parler de lui. Une étude parue récemment dans la revue PNAS rapporte en effet la découverte sur ce site du plus vieil atelier de parure en coquillage d'Europe de l'Ouest, datant d'au moins 42 000 ans. Cette découverte a plus d'une surprise dans son sac. Elle montre non seulement que les groupes humains qui occupaient la région à cette époque maîtrisaient déjà des pratiques symboliques complexes. Elle vient aussi enrichir notre compréhension du châtel péronien, cette culture à la transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieure. Enfin, les coquillages de ces parures viennent du littoral atlantique situé à 100 km du site, ce qui témoigne de mobilité ou d'échange que nous cherchons encore à comprendre finement. Et vous l'aurez compris, donc, Saint-Césaire est de retour. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Crèvecœur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Et vous êtes la co-autrice de l'étude parue dans la revue PNAS. Cet article, je vous en donne le titre traduit en français. Diversité culturelle châtelperronienne à ses limites occidentales, perles en coquillage et pigments provenant de la Roche à Pierrot, Saint-Césaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant d'expliquer les raisons pour lesquelles votre découverte est particulièrement riche, Isabelle Crèvecœur, il nous faut parler de ce site qui est exceptionnel. C'est le site pas forcément très connu de la Roche à Pierrot, pas forcément très connu du grand public. Alors à quand remontent les premières découvertes sur ce site-là? Qu'est-ce qu'on a trouvé en premier à la Roche à Pierrot?
Oui, le site, il est mondialement connu dans le milieu scientifique, en tout cas pour tous les préhistoriens, parce que tout d'abord, il documente une période de la préhistoire qui est vraiment celle qui nous passionne peut-être le plus. C'est celle de la disparition des derniers Néandertaliens et de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. On est sur une période de temps pour le site de la Roche à Pierrot qui couvre entre 30 000 ans, entre 60 000 et 30 000 ans d'histoire. Donc on a une succession d'occupations qui sont documentées là. Déjà ça, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas énormément de sites en France et en Europe.
Donc cette continuité-là.
Voilà, qui documente cette transition. Et puis, ce site, il a beaucoup fait parler de lui en 1979, lors de la découverte donc par François Lévesque, qui était responsable des fouilles à ce moment-là, d'un squelette néandertalien, partiel, il n'est pas totalement complet, mais assez bien conservé. C'est un des derniers squelettes complets bien conservés, en tout cas découverts en France, in situ. Et ce squelette, il a été trouvé dans un niveau, donc parmi ses occupations, qui est dit un niveau de transition, le fameux niveau châtelperronien. Et cette découverte, elle a un petit peu rebattu les cartes de la préhistoire à ce moment-là, puisque jusqu'à cette découverte, la plupart des préhistoriens considéraient que ce châtelperronien, cet industrilithique, cette manière de tailler, les pierres et les outils, était plutôt l'œuvre d'Homo sapiens. Et cette découverte donc d'un squelette associé avec des pièces châtelperronniennes vient changer quelque part ce paradigme en préhistoire à cette époque-là.
À partir de cette découverte donc de ce squelette de Néandertalien qu'on a baptisé Pierrette, il y a eu d'autres travaux de fouilles qui ont été menés durant la décennie 80. Est-ce qu'on peut parler de découvertes aussi importantes que Pierrette ou bien est-ce qu'on a consolidé finalement nos nouvelles connaissances finalement sur le châtelperronien?
Eh bien, pendant toute la dizaine d'années que François Lévesque va prendre pour fouiller ce site, il va fouiller toutes les occupations, mais c'est vrai que ça va surtout être ce niveau-là qui va être très documenté et mis en avant, un niveau aussi moustérien, plus ancien.
Moustérien, donc pour le coup, vraiment associé à Néandertal.
Tout à fait, associé à Néandertal, donc cette industrie associée clairement à Néandertal est plus ancienne que ce niveau-là. Mais en fait, il y avait toute une série d'autres occupations et peut-être même ce niveau châtelperronien lui-même qui n'avait pas en fait livré tous ses secrets qui méritait une réévaluation. Parce que il faut savoir aussi que le squelette, quand il a été découvert, comme souvent en archéologie, il est découvert à la fin de la campagne de fouilles, et donc il a été prélevé en bloc pour pouvoir être fouillé après en laboratoire. Ce qui fait qu'on a perdu une partie du contexte. Et finalement, après des décennies de fouilles, une richesse énorme dans ce gisement, eh bien, il manquait encore tout un temps d'études et d'analyses qui avaient été faits sur certains points, mais qui nécessitaient méritait d'être complétée.
Donc ça, c'est la décennie 2000, finalement, le début des années 2000 qui a été cet autre travail archéologique capital qui est celui de l'examen ou du réexamen des collections. À quel type de connaissances et de conclusions ont mené ces réexamens de collections?
Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un énorme travail qui a été mené par tous les membres de l'équipe de ce projet de réévaluation des collections, initié par Jean-Guillaume Borde, porté ensuite par François Bachellery et Brad Gravina. Donc l'étude, c'était vraiment d'essayer de comprendre si ces assemblages, en fait, étaient cohérents. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes. Des problèmes de lecture qui pouvaient peut-être être liés à des bouleversements, des modifications géologiques qui auraient peut-être mélangé certains niveaux. Et finalement, ce niveau châtelperronien décrit comme tel, eh bien, il n'y avait que 5% de pièces châtelperroniennes dans ce niveau. La plupart du matériel lithique, c'était du moustérien. Donc ça posait énormément de questions. Dans d'autres niveaux de ce même site, eh bien, d'autres découvertes ont remis en question toutes ces stratigraphies. Et c'est vraiment lié à ce travail de réévaluation des collections anciennes, de la faune et du lithique, que le projet de retour sur le terrain s'est mis en place au début des années 2010.
Quelles étaient justement les grandes questions, puisque vous dites que ce réexamen qui a perturbé finalement notre compréhension de ce site-là, quels ont été du coup les fils rouges de ce retour sur le site de la Roche à Pierrot?
Donc les fils rouges, essentiellement, c'était de pouvoir, avec les techniques actuelles, avec les développements méthodologiques, redonner un cadre chronologique bien précis à l'ensemble de ces couches, mais aussi de faire des prélèvements géologiques pour essayer de comprendre tous les processus qui ont pu participer aux dépositions qu'on observe, mais aussi peut-être au mélange des occupations, essayer de comprendre cette dynamique en fait de formation du site, qui était essentielle pour pouvoir décrire en tout cas ses occupations.
Alors je disais tout à l'heure, on peut peut-être rappeler, parce que ça fait écho joliment à cette découverte de cet atelier de parure de coquillage, on peut peut-être rappeler les conditions dans lesquelles ont été découvertes les premiers vestiges sur ce site de la Roche à Pierrot, et ensuite on va arriver à la découverte de ces coquillages. Tout ça s'est fait un peu par hasard.
Oui, tout à fait. Il faut savoir donc que quand on repart sur le site, au départ, on fait des prélèvements dans les coupes existantes. Et puis, par hasard, on découvre une zone du site qui est extrêmement bien conservée. Et pas, c'est pas peu de le dire. C'est-à-dire que l'enregistrement sédimentaire est le plus épais. On a la meilleure résolution possible pour aller décortiquer la succession des occupations. Donc, le projet devient un projet pluriannuel où on se dit que c'est pas seulement des échantillonnages qu'on va faire, c'est vraiment une fouille de l'ensemble de cette séquence avec les techniques actuelles qui vont nous permettre de comprendre tout ça. Et en 2015, quand je reprends la direction du chantier, on trouve en nettoyant certaines zones un coquillage percé. Donc avant de vraiment commencer la fouille de ce niveau en particulier. Et il faut imaginer, c'est un coquillage, ça fait moins d'un centimètre. Ça ressemble peut-être à un petit bout de calcaire quand c'est entouré de sédiments, et c'est dans le cadre du tri de la fouille,
le tamisage
que une étudiante va identifier cette pièce avec une perforation. Donc ça nous a mis tout de suite la puce à l'oreille. On s'est dit, oh là là, peut-être que il y a quelque chose là dans ce niveau auquel il va falloir faire attention. Et 3 ans plus tard, quand on arrive enfin sur ce niveau de manière un peu plus étendue, eh bien, on a la chance de voir que c'était pas juste une coquille percée, mais des centaines de fragments associés à des pigments. Et finalement, on a eu énormément de chance de trouver ça peut-être en amont, parce que ça nous a permis de l'identifier sur le terrain directement.
Et d'être vigilant finalement à la découverte d'autres coquillages. Alors décrivons-les, ces coquillages, parce que ce ne sont pas des nautiles énormes, ce sont des coquillages assez modeste, assez touchant d'ailleurs dans leur forme. On peut les décrire?
Oui, tout à fait. Il ne faut pas imaginer quelque chose d'ostentatoire.
Non. Il n'y a pas non plus un panneau avec écrit atelier de coquillages.
Non, pas du tout. Il s'agit donc, il faut imaginer des petits coquillages marins. Alors, ça peut rappeler à tout le monde la taille peut-être d'un bigorneau. Contrairement au bigorneau, on est plutôt sur des couleurs variées à l'état naturel. C'est des coquillages qui sont assez colorés. Et voilà, quelques 1 cm maximum de diamètre. Ils sont assez Au moment où on les a fouillés, on a pu tout de suite voir la différence avec d'autres fragments qui pouvaient venir du calcaire. Mais c'est vraiment parce qu'en amont, on a eu cette attention qu'on a pu les distinguer. Mais on voit encore parfois les tours de spire. Et c'est assez émouvant.
Alors, comment on distingue ce type de coquillage d'un coquillage qui serait fossilisé dans le calcaire, justement ?
Tout à fait.
Qu'est-ce qui va déterminer qu'il n'y a aucune erreur possible ?
Alors, ça, c'est un travail aussi de spécialiste, de connaître toute cette malacophone. Donc, Solange Rigaud, qui est la spécialiste de l'étude, a pu identifier ces coquillages comme étant clairement des coquillages de l'Atlantique, marins, qui n'étaient pas du tout associés au calcaire turonien. En fait, simplement, c'est le genre et l'espèce de ces coquillages ne correspond pas du tout à ce qu'on a dans le calcaire environnant.
Vous parliez, Isabelle Crèvecœur, de pigments également. Est-ce que ce sont des coquillages qui étaient peints ou bien c'était les pigments naturels de ces coquillages ?
Donc, les coquillages, on suppose qu'ils les ont sélectionnés parce qu'ils avaient une forme, peut-être certaines couleurs. Les pigments, en fait, n'ont pas été utilisés pour colorer les coquillages. C'est assez clair que ce sont deux composants d'un atelier qui a dû avoir, qui s'est passé là. Alors, est-ce que c'était pour réfectionner un habit, une parure ou autre ?
Une bijouterie teinturerie, en fait.
Voilà, ouais. Exactement. Les traces qu'on a sur les coquillages sont liées à de la diffusion dans le sédiment et pas du tout à une coloration volontaire.
Alors, parlons maintenant du fait que ces coquillages sont percés là aussi. Quel signe vous fait vous dire ça n'est pas un accident, ils n'ont pas été cassés, voilà.
Oui, on a des prédateurs qui peuvent parfois percer des coquilles. C'est assez bien documenté. Ici, de nouveau, c'est le travail, on va dire, d'études microscopiques qui permet de définir clairement qu'il s'agit de perforation par pression. On va imprimer une force à un point précis de la coquille. C'est fait de manière standardisée sur plus d'une trentaine de coquilles où on a ces percements volontaires qui sont conservés. On peut être sûr qu'il s'agit d'une activité anthropique. De la même manière, les traces de pigments, elles montrent des traces de percussions. Et ils sont aussi, comme les coquillages, pas d'origine locale, ce qui montre bien que c'est un apport anthropique.
Alors, on va parler maintenant des surprises auxquelles vous ont conduit cette découverte-là. Mais peut-être qu'on peut revenir au fait que ces coquillages sont tous de la même espèce de mollusques. On parle de 180 fragments de coquillages. Ça, c'est la première surprise, la monospécificité de ces coquillages-là. Qu'est-ce que ça nous raconte ?
C'est évidemment quelque chose de très important. Ils sont allés chercher un coquillage en particulier. Ce sont des littorines. Coquillage donc qui vient de l'Atlantique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut garder à l'esprit qu'on est en période glaciaire. Le niveau des océans est plus bas qu'à l'actuel. Et que la distance pour aller chercher ces coquillages depuis Saint-Césaire, elle est de 100 km. C'est pas anodin de se dire, quand on est dans des populations de chasseurs-cueilleurs, que l'on va aller chercher ou que c'est grâce à des réseaux d'échange qu'on va aller sélectionner un ensemble de coquillages comme ça, monospécifiques. Ça traduit vraiment d'une intention très très nette.
Alors parlons maintenant de ces autres surprises. Peut-être la date déjà, c'est le plus vieil atelier de parure en coquillage connu en Europe de l'Ouest. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça ailleurs en Europe d'ateliers aussi imposants, ou bien on peut dire que La Roche-à-Pierrot, Cocorico, détient le record du plus impressionnant atelier de parure en coquillage ?
Déjà le seul atelier en coquillage, ça c'est évident parce que ces traces de perforation sur les coquilles, il faut savoir qu'il n'y a pas de traces d'usure. Donc il ne s'agit pas d'un pendentif ou autre qui aurait été laissé là après usage. C'est vraiment un atelier de fabrication. Et ça, c'est unique en Europe. Et ensuite, au niveau de la date, on est à au moins 42 000 ans. Et dans le reste de l'Europe, il existe des sites où on trouve aussi des coquillages percés pour une période, donc cette période de transition. Dans le pourtour méditerranéen, ce sont des coquillages qui sont associés à la culture ulusienne, qui, comme le châtelperronien, marque cette transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Mais dans les sites donc autour de la Méditerranée, on va avoir plusieurs types de coquillages. On va avoir des traces d'usure. On n'est pas du tout dans ce qu'on a à Saint-Césaire avec cette unicité et finalement cette petite fenêtre sur une activité qui a dû durer peut-être quelques heures maximum, voilà, qui s'est tenue là.
C'est vraiment finalement là le rebut de ces parures qui n'ont pas été fabriquées. Alors bien sûr, on n'a pas une idée de ce à quoi ressemblaient ces parures, même si dans d'autres sites, on a des parures comme ça qui se... On pense par exemple au chapeau de la dame en Italie. Excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais voilà, de ces parures pour les têtes qui sont sublimes avec des coquillages, justement. On a une question aussi qui se pose tout de suite quand on parle de cette période de transition entre Néandertal, Sapiens, la période châtelperronienne. Qui a fabriqué ces parures en coquillage? Est-ce qu'on a une hypothèse là-dessus?
Donc évidemment, c'est la grande question de savoir qui a fait quoi. On est dans cette période où en Europe, on a un bouleversement culturel et biologique qui est indéniable. Néandertal disparaît, Homo sapiens arrive. Et si on a des traces de comportements symboliques qui sont présents dans les sites associés à Néandertal, on a à certains endroits, coquillages avec qui sont peut-être percés de façon naturelle. À d'autres endroits, on va avoir des serres de rapaces qui vont être collectionnées. Mais on n'a pas un comportement de production comme on semble le voir là pour ce site à La Roche-à-Pierrot, mais aussi dans d'autres sites où, pour le coup, Homo sapiens est clairement l'artisan de ce type d'ornement. Je pense à un site, le site de Bačukiro en Bulgarie, le site de Ranis en Allemagne, donc qui sont datés à peu près de la même période que celui de Saint-Césaire, qui sont associés aussi à des industries de transition et pour lesquelles on a des parures qui sont faites en os ou en dents animal. Ces parures-là, elles sont associées clairement à des restes Homo sapiens. Donc ici, pour le châtelperronien, j'ai envie de dire le mystère reste entier parce qu'on a d'autres sites en France avec des traces aussi de présence encore néandertalienne, peut-être peinée contemporaine.
Quel site par exemple ?
Le site d'Arcy-sur-Cure par exemple, qui a aussi des parures, mais là uniquement sur os animal et dents animales. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que cette explosion, on va dire, de production symbolique liée à l'ornementation, à la manière de se parer, elle apparaît que à cette période de transition. Avant ça, je vous ai dit, c'est assez ténu et sporadique dans le monde néandertalien. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas au sein de notre espèce. Mmh. C'est présent en Afrique, ce type de comportement, le fait de percer des coquillages, on en a, que ce soit du nord au sud de l'Afrique, à 80 000 ans. Mmh. Homo sapiens, il fait ça. C'est pas nouveau. Mais en Europe, c'est nouveau. Et ça apparaît dans cette fenêtre entre 50 et 40 000 ans. Donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est si c'est Néandertal qui a fait ce châtelperronien, ce changement complet de manière de faire, de comportement par rapport à ce besoin de se parer, c'est difficile d'imaginer que ça ait eu lieu de façon intrinsèque, sans contact avec d'autres. Et si c'est Homo sapiens ce qu'il a fait, eh bien, peut-être que ce serait la trace donc de ces premiers groupes pionniers qui arrivent dans la région et qui peut-être côtoient d'autres populations néandertaliennes encore présentes.
Donc là, on a finalement une grande énigme, c'est celle d'un contact éventuel ou bien d'une acculturation.
C'est ça. On peut en tout cas poser le mot qui a été proposé déjà, je veux dire, depuis le début, depuis la découverte de pierrettes dans ce site châtelperronien, puisque cette industrie châtelperronienne rappelle plutôt ce qu'on a après au Paléolithique supérieur, ce qui est fait par Homo sapiens. Et en fait, déjà à ce moment-là, rien que le fait de trouver ce néandertalien à cet endroit-là avait lancé ce débat sur l'acculturation. Ici, eh bien, on ajoute une pierre supplémentaire pour dire que dans tous les cas, quel que soit, on va dire, le groupe humain qui l'a fait, cette découverte-là, elle traduit clairement d'un besoin d'identification, de reconnaissance, peut-être un besoin de structuration sociale qui semble se faire dans un paysage culturel et biologique très diversifié.
Et puis vous évoquiez aussi le fait que ces coquillages ne viennent pas de la porte à côté. Alors est-ce qu'ils ont été apportés sur le site? Est-ce que les occupants de ce site sont allés les chercher? Là aussi, plein de scénarios se mettent en place, c'est des scénarios qui ne correspondent pas forcément aux clichés, aux idées reçues qu'on a vis-à-vis de ces populations de cette époque-là.
Évidemment, ça ouvre énormément de perspectives, à la fois au niveau des réseaux peut-être d'échanges et de contacts. Le fait, comme vous le dites, d'aller chercher ces coquillages ou d'être en contact avec des populations qui sont aussi éloignées, c'est la même chose au niveau des pigments, puisque c'est Laure Daillet là, qui a travaillé là-dessus et qui a essayé de trouver les gisements d'origine de ces pigments. Elle a fait des prospections jusqu'à plus de 40 km autour du site sans trouver. Donc on sait que c'est au moins au-delà de ça. Donc ça traduit vraiment d'un réseau d'échanges. Et puis on ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, c'est étonnant. Le châtel perronien, jusqu'à présent, c'était des parures sur os, des parures sur dents. Là, on a cet atelier sur coquillage unique. Et qui rappelle ce qu'on voit autour de la Méditerranée. Donc, on a envie un petit peu de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y avait pas des réseaux encore plus larges que ce qu'on imagine ?
Finalement, des héritages de ces voyages de Sapiens qui seraient arrivés dans cette région. Voilà, là, c'est
on peut tout imaginer.
On peut tout imaginer. Bon, c'est bien et c'est pas bien en même temps, ça, quand on est scientifique. Là, j'imagine que ça secoue un petit peu la boule à neige, ce genre de découverte, quand on a établi des choses de façon fragile sur le châtel perronien, là, ça rebat encore les cartes.
Oui, et en fait, c'est ce qui fait tout le sel de la recherche, parce qu'on ne peut pas avoir de certitude. Voilà, ouais. On est prêt à toutes les possibilités.
Alors, cette découverte-là, elle en appelle d'autres. Comment vous allez continuer à travailler sur ce site-là de La Roche à Pierrot et quels autres travaux vous allez conduire, et sur le site et aussi, bien sûr, dans ces collections qui préexistent.
Oui, donc les travaux, ils sont toujours en cours. Ce travail sur les coquillages, il appelle plein de nouveaux questionnements sur ce niveau châtel-perronien, sur la coordination avec les collections de François Lévesque, donc des fouilles de François Lévesque. On va évidemment continuer le travail d'analyse taphonomique pour essayer de comprendre si ce néandertalien, il est vraiment associé à ce niveau ou pas. Ça, c'est une part des travaux qui sont liés au PCR qui est en cours. Et puis, la fouille continue à La Roche à Pierrot. On fouille tous les ans, tous les étés. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, d'ailleurs.
Oui, si vous avez envie de faire des fouilles, c'est beaucoup de bénévoles, quoi.
Oui. Il y a des bénévoles qui viennent chaque année. Et puis, à côté, il y a le Paléocyte, qui est un centre d'interprétation. Donc, les fouilles sont visitables pendant notre campagne. Et là, on est sur les niveaux les plus anciens, les niveaux moustérien, donc Homo sapiens n'est pas encore là. On est dans le monde néandertal complet. Et ces niveaux sont d'une richesse incroyable, puisqu'on est sur des déchets de vie de populations néandertaliennes qui sont restées là pendant certainement des milliers d'années. C'est un reste d'activité de boucherie avec des ossements d'animaux, du silex taillé. Et ces deux dernières années, on a aussi retrouvé des dents d'enfants néandertaliens, donc perdus du vivant de ces enfants.
Qu'est-ce qui vous fait vous dire que ce sont des dents d'enfants ?
Des dents d'enfants. Eh bien, alors, pour tous les gens qui ont des enfants, et pour vous, quand vous vous rappelez de votre propre croissance, eh bien, on va perdre nos dents de lait. Donc, ce sont des dents de lait qu'on a trouvées. Et ces dents de lait n'ont plus de racines. Donc, on sait la racine s'est résorbée suite à la croissance des dents définitives. Et puis, on perd ces dents et on a retrouvé ces dents mélangées quelque part aux déchets de boucherie et de taille.
Donc, c'est un repas qui s'est fini plus ou moins bien pour l'enfant néandertalien qui a perdu sa dent au passage. En croquant dans un morceau de viande un peu dur.
Peut-être, oui.
C'est l'idée. Alors, quels autres, finalement, travaux vous conduisez, puisque vous ne vous contentez pas de ce site de La Roche à Pierrot? Récemment, vous avez participé à une autre découverte, elle, en Belgique, là, consacrée, elle aussi, à des cas, pour le coup, de cannibalisme, un sujet dont on avait parlé dans cette émission avec Amélie Vialet. Quelles ont été, là, ces découvertes-là? Ça nous emmène un petit peu ailleurs, mais tout de même, c'est aussi pour montrer l'envergure et la palette de tous vos travaux.
Mais ça nous amène ailleurs, mais au niveau chronologique, en fait, on est à peu près dans la même période, c'est celle de ces derniers néandertaliens. Et effectivement, c'est un autre travail qu'on a publié récemment sur ces traces donc de cannibalisme qui étaient connues dans cette grotte de Goyet en Belgique. Ça a été publié il y a plus de 10 ans. Mais ici, c'est un nouvel aspect en fait de cet assemblage qu'on a pu mettre en évidence. grâce au travail donc de Quentin Connefroy qui a travaillé sur la morphologie de ces os. Il faut imaginer des os extrêmement fragmentés. On a surtout les parties inférieures des membres, les fémurs et les tibias, et ces parties ont été vraiment fragmentées pour aller chercher la moelle osseuse. Donc ce sont des petits bouts d'ossements. Nous, on avait fait un travail de recollement de ces os pour essayer d'avoir des diaphyses, donc des morceaux les plus complets possibles. Et grâce à des acquisitions microdensitométriques, donc on va aller voir la structure interne des ossements, eh bien, on a pu essayer de caractériser ces restes et on s'est rendu compte que morphologiquement, c'était tous des individus assez graciles et assez petits, parmi les plus petits néandertaliens qu'on ait documentés. Et ce travail-là d'interprétation, d'études anthropologiques, il a été couplé à une analyse génétique de ces individus parce que l'ADN était extrêmement bien conservé et une analyse isotopique, c'est-à-dire un traceur à la fois de l'alimentation mais aussi de la géographie d'origine de ces individus. Et on s'est rendu compte tout allait dans un sens assez incroyable, c'est-à-dire que c'était pas seulement des individus de petite taille, etc., c'était des femmes, en fait, et que ces femmes avaient un signal isotopique qui n'était pas local. On a quatre femmes, deux enfants, et l'ensemble de ces individus viennent d'une même région, mais qui n'est pas la région d'origine du site de Goyet, qui n'est pas la région de la faune chassée par les personnes qui ont pratiqué ce cannibalisme. Et avec une série d'autres analyses statistiques pour essayer de tester la probabilité, hein, parce qu'il faut toujours être prudent en science, quelle est la probabilité d'échantillonner au hasard quatre femmes, deux enfants dans un échantillon comme ça, eh bien, le site de Goyet est absolument improbable. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer ça de façon par un biais taphonomique ou par une sélection naturelle de morts. On a vraiment là une sélection des individus qui ont été cannibalisés en dehors de la zone de région qui nous a poussé à publier cet article et à parler de cannibalisme sélectif, en tout cas.
Donc cette découverte, elle est un peu plus anxiogène que celle qu'on a réalisée à La Roche à Pierrot. Pour conclure cette émission, il nous reste une petite minute trente, Isabelle Crèvecœur. Revenons à ce site plus léger de La Roche à Pierrot. Replaçons ce site dans l'histoire, justement, dans la longue histoire de la compréhension de ce châtel péronien. Là, c'est encore un coup d'éclat pour cette compréhension du châtel péronien. Comment on peut définir finalement l'importance de ce site renouvelé à partir avec cette découverte-là?
Disons que oui, à chaque fois, c'est une nouvelle lumière sur un contexte. Mais je pense que c'est important de garder à l'esprit qu'on est sur des contextes extrêmement complexes qui ont subit des bouleversements géologiques, taphonomiques, et que en fait ça ne peut que nous rendre plus prudents à chaque fois qu'on commence à fouiller ces niveaux-là pour essayer d'abord pour réaliser à quel point on peut aller loin dans l'étude de ces données, même à partir de petits vestiges comme des coquillages, de la fragilité aussi de tout cela et de l'importance d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui viennent collaborer pour extraire un maximum d'informations de ces niveaux.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Isabelle Crèvecœur, d'être venue nous rappeler l'importance de ce site de Saint-Césaire. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite de vos recherches.